Le journal de Vincent Jacquin.
Bonsoir, c'est un oui clair à la loi Covid qui est sortie des urnières. Mais dans la région, les chiffres montrent une réalité plus nuancée. Et le non a progressé dans le Jura. Analyse détaillée des résultats de ce week-end dans un instant. Il faut endiguer la vague de contamination aux variants Delta et tout faire pour retarder l'arrivée d'Omicron. C'est dans les grandes lignes la stratégie présentée aujourd'hui par la Confédération. Vous vivez peut-être seul, et si ça peut vous rassurer, cela concerne un bon tiers des ménages dans le canton du Jura, un chiffre qui a augmenté ces dernières années. Des flocons seront encore possibles par endroits ce soir, et demain quelques éclaircies sont prévues en début de journée, avant de nouvelles précipitations dans l'après-midi. Au lendemain du net oui du peuple suisse à la loi Covid, on vous propose dans ce journal une analyse fine du résultat jurassien. Le canton a accepté les modifications de la loi à 54,7%, le score le plus faible de Suisse romande, relativement loin des 62% à l'échelle nationale. Entre légère perte de soutien, renforcement évident de l'opposition ou encore village divisé, les explications sont multiples. Cyprien Lovy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes plongé dans les chiffres aujourd'hui et comparé les résultats des scrutins de juin et novembre sur la loi Covid dans le Jura. Il en ressort que même si le canton a voté comme le pays hier, il se démarque de la tendance nationale.
Oui, parce qu'à l'échelle suisse, le oui d'hier est plus net qu'en juin, alors que dans le Jura, il l'est moins. Perte de près de 5 points entre juin et novembre dans le canton, alors que la participation à ces deux scrutins est pratiquement stable. On peut donc affirmer que le renforcement du non est lié à une hausse du nombre de n'est pas lié à une hausse du nombre de votants. Il est évident que dans le Jura, des citoyens ont changé d'avis et basculé dans l'opposition à la loi.
Au regard des chiffres, on peut donc affirmer que le non a progressé.
Oui, le renforcement est évident. Dans 42 des 53 communes jurassiennes, la progression du non est plus forte que celle du oui. L'opposition gagne 2249 voix entre juin et novembre, alors que dans le même temps, le oui ne gagne pas de terrain, il en perd 438 votes de moins. Prenons trois exemples pour illustrer. Les jeunes V, le oui perd 47 votes, le non en gagne 18. Mais au final, la commune accepte chichement la loi. Port-Entruy, qui dit oui à la loi Covid, comme la Suisse, hein, 62%, les deux camps gagnent des voix. Le oui, 12, le non, 162. Ou encore Châtillon, une commune qui a passé d'un net oui en juin à un court refus hier. Le nombre de oui est identique entre les deux scrutins, mais il y a 41 personnes de plus qui ont voté non. Le renforcement du non est donc en partie lié à une mobilisation plus forte des opposants, mais il y a clairement des citoyens qui ont basculé.
Alors cette tendance est marquée dans la plupart des communes jurassiennes. Cyprien, est-ce qu'il y en a qui, comme Châtillon, ont basculé entre les votes de juin et novembre ?
Bien, il y en a beaucoup, Vincent. 20 communes ont passé du oui au non. 8 en Ajoie, 8 dans la vallée, 4 aux Franches-Montagnes. Et c'est parfois très net. Bernevezin, de 54 à 35. Courchapois, de 58 à 48, Cornoles, de 51 à 40, plus de 10 points d'écart donc parfois. Seules deux communes ont fait la bascule inverse, c'est Les Enfers et Saint-Bray.
Est-ce qu'on peut parler de division dans certains des villages jurassiens ?
Alors le mot division est-il le bon ? La question reste ouverte. On peut aussi parler de partage, d'équilibre, mais quoi qu'il en soit, oui, dans 13 communes jurassiennes, il y a moins de 10 voix d'écart, surtout aux Franches-Montagnes et dans la vallée, c'est un peu plus net en Ajoie. Exemple marquant, Haute-Sorne, 1525 oui, 1530 non. L'Ajoux, 187 oui, 186 non. Les Bois, 287 oui, 288 non. Voilà des chiffres qui démontrent cette polarisation de la société. Et comme le dit aujourd'hui dans le temps le politologue de renommée Georg Lutz, la Suisse est divisée, la majorité demeure solide, mais la minorité se maintient aussi. Dans le cas du Jura, on peut même affirmer qu'elle se renforce, puisque le net oui cache une forte poussée du non.
Merci Cyprien. La situation se tend du côté de l'hôpital du Jura. L'AJU est repassée en degré d'alerte, selon un communiqué envoyé cet après-midi. Le nombre de patients a triplé en une semaine et l'hôpital avertit. Il se rapproche de la limite de ses capacités. Il n'est pas exclu que des opérations programmées doivent être reportées ces prochains jours. Il y a urgence, selon l'Office fédéral de la santé publique. Il faut endiguer la cinquième vague de contamination au variant Delta et tout faire pour retarder l'arrivée du variant Omicron. L'OFSP a présenté sa stratégie cet après-midi avec par exemple un durcissement des mesures pour les voyageurs provenant de pays touchés par Omicron. Le point avec notre correspondant à Berne, Serge Hubin.
Difficile de savoir si l'arrivée du variant Omicron est inquiétante. À entendre les spécialistes de l'Office fédéral de la santé publique cet après-midi, on saura demain si le cas présumé d'une personne revenue en Suisse en provenance d'Afrique du Sud est avéré. On ne sait pas grand-chose d'Omicron, reconnaît Patrick Matisse. Il est possible que sa transmissibilité soit plus forte que celle du variant Delta, estime la présidente de la Task Force, Tania Stadler, en s'appuyant sur les constats faits en Afrique du Sud. Mais on ne sait pas s'il provoque des cas graves de maladie et si le vaccin protège comme face au Delta. L'urgence, disent les experts, c'est d'endiguer la situation critique de la cinquième vague au variant Delta. Près de 20 000 nouvelles infections ces trois derniers jours, avec 155 hospitalisations et désormais 219 malades du Covid aux soins intensifs. C'est cela qui est inquiétant pour la directrice de l'OFSP, Anne Lévy.
Oui, il faut faire attention pour le moment parce que c'est le virus qui circule, mais ça c'est le virus Delta. Les restrictions de voyage, c'est contre Omicron. Mais tout ce qu'on fait ici, toutes les mesures comme le port des masques, la vaccination et aussi les distances, les règles d'hygiène, tout ça on fait contre Delta. Et c'est le plus important pour le moment de vraiment baisser les chiffres qui sont en train maintenant de se doubler toutes les deux semaines, si je suis bien informée.
La stratégie de l'OFSP, en attendant de possibles mesures du Conseil fédéral vendredi prochain, endiguer l'actuelle vague et retarder l'arrivée d'Omicron. L'espoir de cette stratégie, que Delta ait réduit ses ravages pour permettre ensuite de gérer au début de 2022 Omicron. Alors dit-on à l'OFSP, de manière inlassable, en plus du port du masque à généraliser, mais c'est de la compétence des cantons, il est plus nécessaire que jamais de se faire vacciner et de s'annoncer pour la troisième dose pour celles et ceux qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois.
Et à noter encore que les ministres de la Santé du G7 se sont réunis aujourd'hui, une assemblée qui intervient alors que la nouvelle souche a été détectée dans plusieurs pays, dont le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'opposition contre les antennes 5G est toujours d'actualité. Un groupe de citoyens annonce ce lundi qu'il a déposé une opposition collective munie de 167 signatures. Il ne veut pas des antennes 5G dans le quartier de Rière-Vazou à Saint-Ursanne, projet qui prévoit d'adapter une installation existante. L'opposition regroupe des riverains, des personnes qui travaillent dans le périmètre et des parents d'enfants qui sont scolarisés à Saint-Ursanne. La neige s'est invitée sur les routes jurassiennes. Au moins 2 accidents ont été signalés dans la région ce matin. Du côté des Serlatais, un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe. Il a tapé la glissière de sécurité avant de finir sur le toit. Il a pu s'extraire lui-même de sa voiture et n'est pas blessé. Et puis sur la H18, devant l'entrée du tunnel de la Roche, une voiture a glissé, est allée percuter le véhicule qui circulait en sens inverse. La police ne fait pas état de blessés après cette collision. On a beaucoup parlé de chiffres ce soir, en voici encore un. Le nombre de personnes qui vivent dans un même ménage diminue. C'est ce qui ressort du dernier memento statistique du canton du Jura qui vient de paraître. La taille moyenne du ménage était de 2,42 personnes en 2010 contre 2,21 l'année dernière, Émilie Charmillon.
Un peu plus d'un ménage sur 3 est composé d'une seule personne, ce qui représente plus de 12 000 foyers jurassiens. Les chiffres du Memento Statistique 2021 font état d'une augmentation du nombre de ménages habités par une seule personne. Alors que ce pourcentage était de 30,7% en 2010, il a atteint les 36,8% l'année dernière. Ces 10 dernières années, on a également constaté une diminution des ménages de grande taille. Les foyers de 5 personnes ou plus ne représente plus que 6,1% contre 9,6% il y a 10 ans. Corinne Poncioni du service des statistiques de Neuchâtel explique que ces tendances s'observent un peu partout en Suisse. Selon elle, cette réduction de la taille des ménages résulte d'un phénomène général de société.
À noter qu'en 2020, on dénombre 32 800 ménages dans le canton, un chiffre en augmentation depuis 2010. Il l'avait promis, il l'a fait, le conseiller communal de Cornol, Fabrice Béret, vivra ce soir sa dernière séance au sein de l'exécutif. L'ancien élu PDC avait annoncé qu'il démissionnerait si le oui à la loi Covid l'emportait à l'échelle fédérale. Fabrice Béret nous a dit qu'il ne voyait plus l'intérêt de continuer à s'investir pour une société où certaines personnes sont exclues. Ce sont ses mots en référence au certificat Covid. Deux assemblées communales ce soir dans les Franches-Montagnes. Les citoyens de Saucy devront se prononcer sur la mise en place d'un transport privé pour les écoliers de 1 et 2P. Un crédit sera aussi soumis à l'Assemblée. Il s'agit d'un peu moins d'un million de francs liés au développement de la zone d'activité d'intérêt cantonal à Glovelier. Et les ayants droit à des enfers seront aussi réunis en Assemblée. La commune ouvre les feux et sera la première à se prononcer sur le renouvellement de la charte qui la lie au parc du Doubs. Ce nouveau contrat court jusqu'en 2032.
RFJ, il est 18h11.
Sport. Le rideau est tombé sur la première partie du championnat de Première Ligue de football et les impressions laissées par les deux équipes vadaises qui y prennent part ne sont pas les mêmes. Le FC Basse-Cour occupe le troisième rang de la hiérarchie à seulement 2 points de la première place, tandis que les SR de Lémont ne sont que 6e à 5 longueurs de leurs voisins. Pourtant, du côté des Grands Prés, on reste les pieds sur terre et on ne veut pas entendre parler des finales d'ascension. Écoutez le directeur sportif du FC Basse-Cour, Fabrice Ribaud.
Non, alors clairement, actuellement, ben, y a qu'à voir le classement, il y aura peut-être entre 5 et 8 points entre le premier et le 8e ou le 9e, donc ça veut dire 2 défaites d'affilée, donc on se retrouve à la 8e place. Mais forcément, l'ambition du club était de faire aussi bien que la saison 20-21, c'est-à-dire qu'on avait fini 4e, c'était notre objectif, c'était de faire aussi mieux. Alors maintenant, oui, on est 3e, on est en haut, on souhaite y rester, évidemment, et puis selon comment ça se passe à la reprise, eh ben, on avisera en avril pour voir comment ça se passe. Mais le début de mars sera aussi difficile pour nous. On aura un match à domicile contre Bouox, qui est en danger de relégation. On a des déplacements compliqués. Puis si on n'est pas prêt, ben on pourra vite rentrer dans le rang et puis se retrouver entre la 6e et la 10e place. Donc il faut qu'on fasse très attention quand même. L'idée, c'est de conserver ce groupe-là, qui vit bien, qui s'entend bien ensemble. Voilà, maintenant, on sait aussi que les téléphones ont sonné depuis un mois et puis que quelques joueurs sont évidemment courtisés par d'autres clubs. Donc ça, c'est le fait actuel. Et puis on sait aussi que la pause de Noël, elle est parfois agitée dans certains clubs.
Une trêve hivernale qui s'annonce justement agitée du côté de la Blancherie. Les SR de Lémont vont tenter de grappiller quelques rangs au classement et comptent se renforcer pour y parvenir sur le terrain et sur le banc. Le directeur sportif de l'équipe de la capitale, Frédéric Montefusco.
Aujourd'hui, l'objectif, je pense qu'on est dans une position un petit peu qui est, je ne veux pas dire idéale, parce qu'on devrait quand même être plus haut. Mais on est dans une position de chasseur où on se laisse l'opportunité d'aller beaucoup plus haut.
Pour atteindre ce top 5, est-ce qu'il y aura des retouches dans le contingent cet hiver ?
Oui, on a quelques pistes, rien de concret. On va essayer d'ajuster l'équipe pour être encore plus performant. On va aussi récupérer des joueurs qui étaient blessés. Donc pour l'instant, l'équipe, elle est comme elle est. Puis on verra les opportunités. Comme je vous dis, on va faire 1 ou 2 jours de respiration déjà.
Il y a un gros dossier à gérer, c'est celui de l'entraîneur. Armen Gachi ne peut plus être à la barre dès le 1er janvier. Quelle solution s'offre à vous maintenant ?
La solution est maintenant de se mettre justement autour de la table, être tranquille, regarder ce qu'on peut faire. C'est dommage pour Armen. Armen, même s'il n'a pas le diplôme, c'est un entraîneur qui est très compétent. Donc on espère pouvoir trouver une solution pour le garder au sein du staff, de l'équipe, et puis de voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il a commencé un projet, on est très content de lui, et puis il faut voir ce qu'on peut faire. On travaille beaucoup depuis un mois, on travaille aussi pour certains transferts, certains départs. Aujourd'hui, on n'a rien de concret. On a des pistes, mais encore rien de concret.
Un dossier signé Théo Ria. Et les deux équipes vadaises reprendront le championnat de Première Ligue le 5 mars. Le FC Basse-Cour accueillera Bouox, et les SR de Lémont se déplaceront en terre zurichoise pour y défier Hung. Le conseil de l'Association suisse de football a approuvé la réforme des différentes catégories de jeux du championnat. La Promotion League et la Première League compteront ainsi plus d'équipes à partir de l'exercice 2022-2023, annonce aujourd'hui l'ASF. Il y aura notamment 6 formations de plus en Première League où évoluent le FC Basse-Cour et les SR de Lémont. 3 groupes réuniront 16 équipes à l'avenir contre 14 à présent. Le nombre de clubs sera également adapté de manière progressive en deuxième ligue interrégionale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très belle soirée.